Chers frères et sœurs, chers amis, comme je l'ai dit à l'issue de la messe précédente, je remercie M. le curé pour son invitation. Je lui souhaite un mandat curial moins bref que le mien, mais tout aussi heureux. Dans un apologue très suggestif, Søren Kierkegaard rapporte l'histoire suivante. Un incendie s'était déclaré dans un cirque ambulant. Aussitôt, le directeur du cirque envoya le clown, déjà costumé pour le spectacle, au village voisin, où le feu menaçait de se communiquer aux maisons des villageois. Le clown se rend en hâte au village pour appeler les gens au secours du cirque en détresse. Mais les villageois qui accourent, pris du clown, croient à un stratagème habile pour les attirer au spectacle et ils se mettent à l'applaudir en riant jusqu'aux larmes. Le clown, lui, a plutôt envie de pleurer. Mais plus il les supplie de l'écouter, et leur redit le danger qui les menace et l'incendie qui se rapproche, plus on rit en l'écoutant et plus on trouve qu'il joue très bien la comédie. La suite est prévisible, le feu se propage du cirque aux maisons du village, mais alors il est trop tard pour intervenir, le cirque comme le village sont réduits ensemble. Pour Kierkegaard, cet apologue mettait en évidence la situation paradoxale de l'homme de foi et a fortiori du saint. Il est impuissant à se faire comprendre et lorsqu'il parle, ses paroles sont interprétées au rebours de leur signification véritable. Il n'est pas pris au sérieux alors que son discours est le plus sérieux qu'il soit, puisqu'il y va de la vie et de la mort. On le catalogue immédiatement. On le range parmi les abuseurs dont l'époque est friande et dans laquelle chacun joue un rôle convenu, dit des paroles et se livre à des gesticulations convenues, et que tout le monde sait dérisoire dans ce monde dont parlait Montaigne, où, disait-il, la plupart de nos vacations sont farcesques. Et quand le feu gagne le village, il est déjà trop tard. Joseph Ratzinger a repris à son compte l'apologue de Kierkegaard, tout en signalant les limites. Car nous le savons tous, comparaison n'est pas raison. Dans la réalité, l'homme de Dieu qui prend la parole, qu'il s'agisse des prophètes de l'Ancien Testament ou des saints et saintes de l'histoire de l'Église, et tout particulièrement de saint Eugène que nous fêtons aujourd'hui, l'homme de Dieu ne s'adresse jamais à des gens totalement étrangers à ce qu'il a à leur dire. Précisément parce que ce qu'il a à leur dire touche leur existence dans ce qu'elle a de plus essentiel. La parole qu'il doit leur transmettre rejoint toujours chez eux un lieu secret, souvent enfoui, souvent inconnu d'eux-mêmes, mais où Dieu parle à leur cœur. C'est ce qui définit l'homme, et si ce Dieu n'existait pas, il ne serait plus un homme. C'est ce que nous rappelle, entre autres, la Constitution Gaudium et Spes du Concile Vatican II. Même si l'homme de Dieu doit payer de sa vie la vérité qu'il proclame, celle-ci, de par son caractère universel, est en mesure de toucher ses pires ennemis, même s'ils n'osent pas se l'avouer à eux-mêmes. Plus encore, l'homme de Dieu est en mesure d'intercéder pour eux dans le moment même du paroxysme de leur haine, celui où ils le mettent à mort. Les saints ne viennent jamais trop tard, ils viennent toujours à point nommé. À l'image du serviteur annoncé par Isaïe, il ne crie pas, il n'élève pas le ton, ils ne font pas entendre leur voix dans la rue, mais fidèlement ils présentent le droit. Et comme ils sont toujours en avance sur leur temps, ils obligent leur temps à sortir de sa gangue, de ses impasses, de ses péchés, et à se projeter en avant de lui-même, bon gré mal gré, à la rencontre de celui qui vient. Les saints sont notre espérance, jusques et y compris dans les temps de malheur, de violence et de carnage, et nous savons que Dieu nous enverra toujours des saints. Dans l'évangile que nous propose la liturgie, il n'est question que de lucidité. Il s'agit de discerner les signes de la venue du Fils de l'homme. Il s'agit de bien voir quelles conditions sont à remplir pour réussir une entreprise, pour relever un défi. La pointe des paroles du Seigneur est déconcertante. Car l'homme qui veut bâtir une tour, le roi qui veut partir faire la guerre, ne doit pas se prémunir, mais bien se démunir. Il ne doit pas accumuler des garanties de succès, mais se dépouiller de tous ses biens, c'est-à-dire devenir disciple. L'homme en désarroi devant le chaos du monde est tenté de crier « sauf qui peut » est invité par Jésus lui-même à se planter comme le jardinier devant le figuier et à observer longuement la poussée de ses feuilles. Un autre apologue, que celui que je citais en commençant, de la tradition juive, celui-là, nous dit quelque chose de semblable. Je le cite. Vous vous rappelez, dans Makot, un traité du Talmud, Rabbi Akiva, montrant la montagne du temple, nous venions d'apercevoir un chacal qui bondissait hors du sein des saints en ruine. Et nous pleurions. Mais Rabbi Akiva, lui, riait. Nous lui demandions « Pourquoi ris-tu ?» Il nous demandait « Pourquoi pleurez-vous » Et quoi ?« Du saint lieu dont il est écrit, le renard le foulera, nous voyons bondir le chacal, et nous ne pleurerions pas ?» C'est justement pourquoi je ris, répondit Akiba. Car il a été dit, Jérusalem ne sera plus qu'un morceau de décombre. Et Zacharie a dit, de nouveau sur les places de Jérusalem, les vieux et les vieilles s'asseoiront, leurs bâtons à la main, et les filles avec les garçons danseront leur danse. Tant que la première de ces paroles n'était pas réalisée, je pouvais douter de l'autre. Mais maintenant qu'elle s'est montrée véridique, dans la seconde aussi, je vois la certitude. Devant le chaos du monde, devant le déchaînement de la haine, devant le dévoilement d'une jeunesse qui sans doute a cherché Dieu, et qui ne s'est vu proposer que des caricatures grimaçantes, auxquelles, hélas, elle a fini par adhérer, la parole de Dieu nous met en garde, aujourd'hui comme hier, contre la précipitation. perception de ceux qui n'ont rien vu venir et qui tout à coup s'affolent. Dieu nous donne en effet l'acuité du regard qui nous permet de voir venir. Voir venir quoi? Non pas le cataclysme, l'écroulement universel, mais la venue du Fils de l'homme, aussi certaine que l'aurore, qui conclura l'histoire. Et nous dit le catéchisme de l'Église catholique, la victoire de Dieu sur le déchaînement ultime du mal, qui fera descendre du ciel son épouse, après l'ultime ébranlement cosmique de ce monde qui passe.